se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi, 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Avec moi, il y a toujours Paul Lassen, journaliste RMC, Loumire Lapré, militante écologiste, Laurent Dandrieux, rédacteur en chef culture à Valeurs Actuelles, et Juliette Briens, journaliste à L'Incorrect. Dans un instant, pour 52% des Français, nous ne sommes pas prêts à accueillir les JO. Vous êtes d'accord? Pas d'accord? Vous nous appelez au 32-16. Ça approche, il faudrait qu'on s'y mette quand même. Si on n'est pas prêt, ça va être compliqué.
Combien de jours, Rémi?
118 jours. Bravo. À 13h30, le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. À 14h, affaire Émile, Lina, affaire Grégory, Outreau, Dupont de Ligonnès. Notre fascination pour les faits divers est-elle malsaine? On vous pose la question. Le grand Dominique Rizé, j'insiste parce que je l'adore et je sais que vous l'aimez également beaucoup, co-présentateur de Faites Entrer l'Accusé sur RMC Story, Dominique Rizé sera en direct en studio avec nous. Vous pourrez parler directement avec lui. Vous nous appelez au 32-16 à 14h40, les immanquables, les infos qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui. Et puis Paul, c'est un sacré coup de pouce si vous le remportez.
Oui, puisqu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour jouer au coffre RMC. Nous vous offrons jusqu'à 50 000 euros. Alors c'est simple, pour jouer, dès que vous entendez cette alerte. À partir de ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant coffre au 7-32-16. Alors si vous êtes sélectionné, vous ouvrirez aujourd'hui le coffre RMC. Vous repartez d'ores et déjà une fois que vous êtes sélectionné avec la somme de 2500 euros. Mais vous pouvez les remettre en jeu en ouvrant le coffre RMC. Et si vous osez l'ouvrir, vous avez la possibilité de gagner soit une semaine de vacances dans un des campings Tikayan qui se trouve en France, un séjour pour 6 personnes, soit la belle somme de 50 000 euros. Alors pour ça, vous envoyez coffre au 732-16, coffre au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Je reconnais.
Vous connaissez cette musique?
Non.
Oui. Loumire ne connaît pas. Paul,
non,
tu connais
pas.
Tu connais?
Je sais pas, c'est
Juliette.
L'hymne des JO.
Ouais.
Ah bon. C'est Aya Nakamura?
Non, pas loin. Non, c'est l'hymne officiel des Jeux Olympiques. Ouais. Eh oui. Mais.
Qu'on a tous en tête. Hein.
Le doute persiste.
Les quatre, tous les
doute
quatre
sur la capacité de la France à accueillir et à organiser les JO d'été. Paul, à quelques dizaines de jours, 118, de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain, plus de la moitié des Français pensent que notre pays n'est tout bonnement pas prêt.
Oui, 52% exactement. Ils sont 52% à penser que la France ne sera pas prête au mois de juillet prochain, d'après un sondage de l'Institut CSA. En tête des inquiétudes chez les Français, la sécurité. Hein. Depuis le placement en urgence attentat en début de semaine, les inquiétudes se multiplient sur la bonne tenue de la compétition, mais aussi et surtout de la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène. Gérald Darmanin se veut pourtant rassurant. Il le dit, la police, les gendarmes, les préfets, les renseignements, tout le monde sera prêt. Mais ça ne semble pas convaincre les Français. Autre inquiétude notable, le bon fonctionnement des transports en commun. À quelques mois des JO, les transports parisiens, pour ceux qui les prennent, le savent, hein, ils sont à l'agonie ou presque. Les usagers sont inquiets, notamment avec l'afflux de voyageurs étrangers qui se profile. Mais là encore, les autorités ont voulu rassurer les Franciliens. C'est la présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, qui a annoncé en début de semaine des moyens renforcés pour, je cite, assurer les flux de voyageurs durant les JO.
Merci Paul. On vous pose la question. Est-ce que, comme 52% des Français, vous considérez que nous ne sommes pas prêts pour accueillir les JO? Vous nous appelez au 32-16. Laurent, est-ce qu'on est prêt?
Alors, moi, ce que je trouve déjà intéressant, c'est ce chiffre de 52%, parce que je pense que la plupart des gens qui ont répondu à la question n'ont pas d'informations très précises sur l'état d'avancement des travaux.
Non, mais bon, ils écoutent des débats,
ça traduit
radio,
un état d'esprit qui est un état d'esprit général dans le pays de défiance vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent, en qui on n'a pas confiance sur leur capacité à mettre en œuvre des événements pareils. Après, effectivement, bon, sur les déroulements des épreuves, Je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude. Les infrastructures qui devaient être livrées l'ont été. Donc, effectivement, il reste le deux gros enjeux qui sont d'ailleurs liés, qui sont le transport et la sécurité, parce qu'on l'a vu quand même au moment des incidents lors de la finale de foot au Stade de France, que les bouchons de trafic de foule sont une opportunité pour créer de l'insécurité. Moi, je persiste à rester extrêmement dubitatif sur la cérémonie d'ouverture, qui est vraiment, on a choisi l'option la plus à risque et la plus infaisable. Le fait que Gérald Darmanin se veuille rassurant me rassure modérément, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un gros problème de déni de réalité en règle générale. Voilà. Et puis, effectivement, l'inquiétude sur les transports, c'est qu'il devait y avoir un certain nombre d'infrastructures qui devaient être créées et inaugurées à l'occasion des JO et qui ne seront pas prêtes. Le Charles de Gaulle Express a été remis à 2027. Ouais. Les trois lignes supplémentaires de métro, c'est pour plus tard également. Or, effectivement, Paul l'a rappelé, le réseau tel qu'il existe est loin d'être satisfaisant, avec des temps d'attente qui sont de plus en plus colossaux, des chauffeurs de bus et de métro en nombre insuffisant, des rames en nombre insuffisant. Donc, effectivement, oui, il y a de quoi être assez inquiet.
Juliette ?
Je pense que dans ce chiffre, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que 52%, c'est plutôt pas mal. Moi, je pensais que ce serait beaucoup plus. Ouais. Voilà, parce qu'on ne peut pas dire que les JO bénéficient d'une super pub dans les médias en ce moment. Il y a plusieurs choses. Déjà, concrètement, sur les choses où on n'est pas prête, vous venez de le rappeler, Laurent, sur certaines lignes de métro qui, effectivement, ne seront pas du tout livrées à l'heure. Là, une autre chose, c'est est-ce qu'on sera prêt en termes de ce qu'est la France, en fait. Je pense qu'il y a la préparation vraiment structurelle des JO, et je pense qu'il y a aussi 52% des Français qui se disent, est-ce que le contexte actuel de comment on vit en France en ce moment,
l'image
sécuritaire, hein, évidemment, l'image de la France, l'image de Paris, de la saleté, des grèves, du risque terroriste, des travaux partout. En fait, que Paris, en fait, en soi, l'ambiance, en fait, n'est pas propice à recevoir tout simplement les Jeux Olympiques. Et après, il y a sur le concret, est-ce que ça va être... Je pense que cette inquiétude, elle vient des organisateurs eux-mêmes. Quand Valérie Pécresse nous dit on va mettre le billet de métro à 4 euros pour dissuader les gens de prendre le métro en disant aux Parisiens...
Ce qu'elle dit exactement, c'est que le billet de physique à 4 euros, il est à 4 euros, c'est excessif. Mais elle dit justement, on l'a fait trop cher pour que les gens n'aillent pas faire la queue
et achètent les passes semaine
pour les automates, voilà, et qu'ils le fassent aussi de manière digitale.
Et qu'on dit aux gens, il faut absolument vous mettre en télétravail, et puis si vous pouvez partir de Paris, franchement, les gars, ça nous arrangerait. Effectivement, quand on voit qu'aujourd'hui... Non,
Hidalgo a dit l'inverse, elle a dit rester à Paris.
Oui, mais il y a beaucoup de messages contradictoires. Non, mais il y a des messages contradictoires. On vous a aussi dit que le mieux, ce serait de se mettre en télétravail et puis pourquoi pas prendre ses vacances en juillet. Mmh. Et puis aussi, et j'ai perdu de ce que je voulais dire, mince.
C'est moi qui t'ai interrompu, c'est le principe du débat, c'est pas grave.
Ça te reviendra.
Oui, ça va me revenir.
Oui. Bon, en tout cas,
c'était quelque chose de très intéressant.
Mais est-ce que toi, tu doutes?
Bah oui, bien sûr, mais comme tout le monde, je doute un peu. Et la cérémonie sur la Seine, est-ce que moi, qui est, d'après l'avis de la DGSE, de la DGSI et du préfet de Paris, depuis le début, une hérésie sécuritaire, parce qu'on manque de personnel et que à sécuriser, c'est tout à fait... c'est un gros challenge, en tout cas. Donc on a le droit de douter.
Loumière, tu es confiante ?
En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je pense que quoi qu'il arrive, ça va se faire. De toute manière, la question, c'est à quel coût ? Et j'ai quand même l'impression que là, les organisateurs nous disent, en gros, l'État sera là pour éponger si jamais il y a des dépassements, si finalement le compte n'y est pas. Moi, ça m'interroge un peu quand même. Enfin, c'est quand même de l'argent public. L'argent public, il n'est pas open bar, comme nous dirait notre ministre de l'Économie. Et donc, ça m'interroge de dire des gens... qui par ailleurs sont quand même visés par plusieurs plaintes, plusieurs enquêtes du parquet national financier pour recel, prise illégale d'intérêt, favoritisme, nous disent non mais vous inquiétez pas, l'État sera là si jamais. Et ça, moi, ça me pose vraiment problème, parce que je crois que ça s'inscrit vraiment dans cette déception, je crois, qui est partagée par beaucoup de Parisiens, de Parisiennes et de Français au global, qui était que la promesse, c'était des Jeux populaires où la totalité du pays allait pouvoir participer pleinement. et qu'en réalité, ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Les billets sont hors de prix. Il a été confirmé que plusieurs étudiants qui vivent dans des CROUS, donc je rappelle que quand on est un étudiant et qu'on vit dans un CROUS, c'est a priori qu'on est boursier et donc on vient d'une famille qui n'est pas privilégiée. Ils vont être virés de leur logement CROUS intramuros pour être replacés à Melun. Oui, mais sauf que comment tu fais quand tu as un stage? Enfin, je veux dire, c'est pas anodin. Et surtout...
Il y a pas mal... J'essaie de me...
Oui, vas-y, mais j'en parlais avec
Il y a pas mal de logements étudiants qui sont vides aussi l'été.
Oui, mais sauf qu'ils ne suffiront pas. C'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement de gens à loger que même ceux qui sont occupés vont devoir être dégagés. Et en fait, au-delà de ça, ce qui m'interroge, c'est le fossé qu'il y a entre la promesse et entre ce qui va réellement se passer. Parce que si on n'avait rien promis en disant ce sera des jeux populaires, la liesse nationale populaire, tout le monde y aura accès, etc., on ne se sera pas attendu à autre chose. Je crois que la totalité des gens qui vivent dans des villes où il y a eu des Jeux Olympiques disent c'est un loisir pour riches, où on favorise les touristes fortunés quand on voit ce que ça coûte de venir passer deux semaines pour voir les JO. Donc là, je pense que moi, c'est ça qui m'interroge. C'est que ce qui devait être différent, c'était que ça devait être des jeux écolos et des jeux populaires. Et là, je crois quand même que les promesses sont en train
si
de ne pas être
tenues. En plus, dans un contexte où on nous annonce des restrictions budgétaires, qu'il faut aller chercher 20 milliards, il faut aller chercher 10 milliards, il y a la dette, tout va exploser. Donc forcément, les Français n'ont pas vraiment la tête à ça, je pense.
Paul,
je vais contredire un peu Laurent pour taper un peu plus sur les JO. J'en suis désolé, tu disais que les infrastructures... Tout était à peu près bien. Je vais te donner deux exemples. Le premier, c'est la piscine olympique, qui finalement n'est pas aux normes. Elle a coûté plus de 150 millions d'euros. Et la deuxième chose, ça concerne
Il y a la scène, c'est pas grave.
Comment c'est possible, ça? Vraiment.
Et concernant la cérémonie d'ouverture, c'est quelque chose dont on parle peu, mais il faut savoir que tous les bateaux, des délégations vont défiler sur la Seine. Il faut savoir qu'il y a un pont de Paris, le pont de Sully, dont les arcades sont cassées. C'est-à-dire qu'il y a un risque sécuritaire en plus.
Parce qu'il y a une péniche qui s'est fracassée.
Exactement. Une péniche qui s'est fracassée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, passer sous le pont de Sully en péniche, c'est risquer sa vie.
Et voilà. Comment est-ce qu'on
ça, c'est un point important.
Comment c'est possible? Moi, ça m'interroge vraiment que c'est une gabegie d'argent public. Et l'argent public, c'est quand même l'argent de nos impôts. Donc, autant moi, je suis la première à dire que c'est important de payer des impôts et que chacun doit payer sa part, mais il faut qu'il y ait une utilisation correcte. Comment c'est possible qu'on fasse une piscine qui ne soit pas aux normes? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, 150 000 euros.
On enquêtera après.
150 millions.
Millions d'euros, pardon. Oui. Enfin, vous avez une petite différence.
Allez, pour 52% des Français, nous ne sommes pas prêts à accueillir les JO. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous nous appelez au 32-16. Xavier est avec nous. Bonjour, Xavier.
Bonjour tout le monde.
Merci de nous rejoindre Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez d'où, Xavier?
De Chaumont, en Haute-Marne, pour situer à côté de Colombelles-les-Deux-Églises.
Très bien. La terre du général de Gaulle. Xavier, vous faites quoi dans la vie?
Je suis dessinateur industriel.
D'accord. Vous êtes confiant pour les JO?
Alors, sur certains points, oui, mais d'autres, non. Je vais parler concrètement. Moi, dès qu'on a pu s'inscrire pour accès à la billetterie, j'ai pris des places pour aller voir la finale de boxe qui aura lieu le 8 août. Et à l'instant où je vous parle, je n'ai aucun retour concernant des infos. À quelle heure je dois me présenter? Est-ce que je peux y aller en voiture? Est-ce qu'il faut que j'y aille en train?
Vous avez payé combien?
Des navettes? Rien du tout.
Non, vous avez payé combien?
Environ 1300 euros. C'est pas les premières places, c'est pas les dernières, on va dire, ça doit être les deuxième ou troisième catégorie.
1300
pardon.
Combien de places pour 1300 euros?
Pour trois personnes.
Ah. Personnes.
Mais combien de places? Juste une
place. Non, trois places.
Oui, mais pour un seul.
Non, 1300 euros pour trois personnes.
Pour une soirée.
Oui, mais pour une soirée, voilà, c'est
une soirée où il y aura une bonne soirée, puisqu'il y aura de mémoire, je crois qu'il y a trois médailles d'or hommes et deux médailles d'or femmes.
D'accord. Bon, okay. Ça me paraît hors de prix parce que j'aime pas le sport. Donc,
et puis c'est de la bonne.
Oui, mais
regardez, c'est quand même les Jeux Olympiques. Moi, j'ai 57 ans, donc ça sera la dernière fois.
Non, mais je comprends tout à fait.
Les Jeux Olympiques en France. Si vous comparez par rapport à des places de spectacle, je sais pas, Taylor Swift ou des choses comme ça...
Oui, vous avez raison, c'est 300 euros la place.
Xavier, vous avez, j'imagine, relancé des organismes pour avoir des renseignements? Qu'est-ce qu'on vous dit?
Non, sur leur site internet, on nous dit qu'on sera prévenu, mais on est quoi, là, 8 août, c'est quand même bientôt. Ouais. Je ne sais pas du tout comment m'y rendre. Donc, j'attends.
Le problème, c'est que si vous réservez des billets SNCF, qu'on en a parlé tout à l'heure, les billets TGV vont vous coûter très cher. Hein.
Ouais. Donc, probablement, on va y aller en voiture, parce que nous, on est de la chance, on est là en Haute-Marne, donc, on a tout de suite l'autoroute. Donc, Paris, allez, on va dire en deux heures, c'est fait. Mais où est-ce que je me gare? Je ne sais pas du tout. Et c'est ce que j'ai dit à mes gamins. Bon, comme on ne va pas pouvoir rester là-bas parce que ça va être hors de prix.
De toute façon, Vous en avez conscience, Xavier, mais je peux vous prévenir d'ores et déjà. Ça se passe où, la soirée?
Normalement, c'est Roland-Garros.
Ouais,
couvert pour l'occasion.
Ouais, la voiture, je pense que vous pouvez la garer. Alors, vous êtes en Haute-Marne. Garez-la dans les. Dans la Marne. Hein, garez-vous dans la Marne. Et là, prenez les transports en commun. Je pense que ça va être très compliqué.
Bien.
Ouais. Merci, Xavier, d'avoir été avec nous. Xavier qui nous appelait au 32-16. Bah, il y a l'aspect transport. On vient de l'évoquer avec Xavier parce qu'il s'inquiète notamment du transport, comment je vais m'y rendre, est-ce que je pourrais m'y rendre en voiture, etc. Mais on l'a évoqué également, il y a une grosse interrogation et aussi, j'allais dire particulièrement sur l'aspect sécuritaire avec le contexte actuel. Et Rudy Mana est avec nous, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour Rudy Mana.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi. Rudy Mana, on est, je le répète Paul, ça devient qu'un gag entre nous, parce que je le répète depuis ce matin, nous sommes à 118 jours.
Il faut aussi dire à nos auditeurs que tu es aussi en vacances dans 118
jours. Exactement, oui, donc le chiffre est important pour moi aussi, Rudy Mana. On est à 118 jours de la cérémonie d'ouverture, Rudy. Est-ce que vous, en tant que porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale, vous êtes inquiet?
Alors écoutez, déjà j'ose espérer qu'on est prêt, parce que sinon ça serait inquiétant. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a 100% des policiers qui vont travailler lors de la période des Jeux Olympiques. Ça je peux vous le garantir, parce que c'est signé et c'est daté. Alors nous, j'ai entendu l'auditeur tout à l'heure qui disait 1 300 € pour 3 billets. Ben nous, vous savez, on a encore du mal à obtenir les 1 500 ou 1 600 € de primes qu'on demande pour les policiers pour qu'ils travaillent pendant les Jeux Olympiques.
Ouais, c'est vrai.
Donc est-ce qu'on est sûr que tout va bien se passer? Je peux pas vous répondre oui, Rémi, parce que on n'est jamais sûr de rien.
Mais est-ce que vous êtes confiant?
Est-ce que je suis confiant? Ben, j'ai envie de vous dire que je suis confiant. Il y a qu'un événement où ça nous chagrine un peu, nous les policiers, le syndicat Alliance, on l'a tout de suite dit, c'est cette cérémonie d'ouverture sur la Seine. En fait, tous les Jeux Olympiques qui ont eu lieu sur toute la planète, ils ont lieu dans des stades, les cérémonies d'ouverture. Et nous en France, comme on est un peu plus malin, un peu plus intelligent et un peu plus chiant aussi que tous les autres, on décide de le faire sur la Seine, avec au départ 600 000 personnes, et on se rend compte que ça va être super compliqué pour la sécurité, et franchement je vous le dis, ça va être super compliqué.
Ah bon, on est passé à 220 000, hein?
On a réduit la jauge, tout à fait, ouais. Mais ça va être quand même super compliqué. Et on va engager ce jour-là 45 000 policiers. 45 000 policiers vont être engagés pour la cérémonie d'ouverture.
Il y a combien de policiers en France?
En France, vous avez 105 000 policiers gradés et gardiens, et puis en tout, pour les personnels du ministère de l'Intérieur, vous avez à peu près 140 000 personnels du ministère de l'Intérieur. Avec
donc on a un tiers des personnels de police.
C'est ça.
Qui ce jour-là, un policier sur trois sera en train de sécuriser la cérémonie.
Alors que si on l'avait fait dans un stade comme le Stade de France, ça aurait pu être tout aussi joli. On aurait eu beaucoup moins de risques et il y aurait eu beaucoup moins aussi de policiers engagés. Bon, en France, on a toujours un peu la folie des grandeurs, donc on va essayer de tenir cette cérémonie d'ouverture en espérant que tout se passe bien, avec un engagement au maximum de toutes les forces de police et les forces de gendarmerie aussi, hein, parce qu'il y aura aussi des gendarmes ce soir-là. Mais enfin, ça, je pense qu'on aurait pu l'éviter. Après, pour le reste, il faut pas dramatiser, il faut pas se dire que ça va mal se passer, parce que sinon, franchement, on va pas commencer à les faire déjà. Donc, il faut qu'on se dise que ça va bien se passer. On va faire le maximum, nous, les policiers, les gendarmes, pour que ça se passe bien. Je crois que ça a été bien préparé. C'est le ministre de l'Intérieur qui disait qu'il passait une demi-journée tous les jours pour préparer les Jeux Olympiques. Donc, je pense quand même que ça va être bien préparé. En tout cas, je l'espère. Mmh. Et puis, j'espère qu'on n'aura pas d'incident, qu'on n'aura pas d'incident grave, je veux dire.
Une dernière question, Rudy Mana, une dernière question. Est-ce que, à l'heure où l'on parle, on est à 4 mois de la cérémonie d'ouverture, il est encore possible de rétro-pédaler, et selon vous, pour la cérémonie d'ouverture, hein?
De ce que j'ai compris hier, le préfet de police de Paris, qui est quand même un rôle majeur hein, dans l'organisation des JO, puisque une grosse majorité va se dérouler à Paris, il a dit qu'il n'y aurait pas de rétro-pédalage.
Donc, bon, voilà. On fera avec.
Ça veut dire qu'on va être obligé de faire avec, ça veut dire que tous les policiers et gendarmes vont être obligés de faire avec, et ça veut dire qu'on va essayer que ça se passe bien, et puis on fera le maximum. La seule chose qu'on peut dire à tous les Français, c'est qu'on va faire le maximum pour que ça se passe bien. Maintenant, vous savez, on pensait qu'on était prêt parfois au Bataclan, et puis on a eu des attentats absolument horribles et dramatiques. On est pris, mais on n'a pas de risque. On ne peut pas dire qu'il y a un risque zéro.
Merci, Rudy Mana, d'avoir été avec nous, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. On continue de vous poser la question pour une majorité de Français, 52%. Nous ne sommes pas prêts à accueillir les JO. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous nous appelez au 32-16. Antoine nous rejoint. Bonjour, Antoine.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Vous nous appelez depuis Paris.
Oui, c'est un plaisir de vous avoir.
Bah, c'est un plaisir partagé. Vous faites quoi dans la vie, Antoine?
Oh, je suis employé de bureau, avocat.
D'accord. Antoine, vous habitez Paris? Au mois de juillet, fin juillet, août.
Je me ferai un plaisir de rester à Paris pendant les Jeux Olympiques en espérant trouver une place pour y assister. On ne va pas priver Madame Hidalgo de la seule chose qu'elle ait faite dans sa vie, bien faite dans sa vie mère, c'est d'avoir porté la candidature de Paris. Soyons positifs, la méthode Coué, et puis arrêtons les pisse vinaigres, on va être prêts, ça va se passer formidablement bien. Et voilà, et si on doit marcher à pied, tant mieux. En période, pendant les Jeux Olympiques, si on marche à pied, on fait du sport avec les athlètes, c'est parfait. Il faut arrêter, vraiment. De toute façon, est-ce qu'il y a une question qu'on peut poser? Est-ce qu'on peut annuler les Jeux Olympiques?
Bah, ça serait compliqué.
Non. Bon, non. Alors, faisons en sorte que tout se passe bien. Je préfère rester sur la note positive de monsieur Malak qui est intervenu avant, en disant mais oui, on est prêt, il y a plein de choses qui ont été faites, ça va bien se passer. Faut arrêter de, c'est bien français, ça, franchement, de dire. Et de toute façon, pour la circulation dans Paris, ça peut pas être pire qu'en ce moment.
On est d'accord.
Ça peut être pire.
Ouais, on est d'accord, c'est vrai.
Toujours tout seul.
En ce moment, on peut toujours être pire, hein.
Antoine, vous habitez dans quel coin de Paris, si je peux vous demander?
J'habite dans le 19e et je travaille dans le 6e. Mon cabinet est dans le 6e.
Ah ouais. Et vous, au mois d'août, vous serez en vacances?
Et non, je vais rester à Paris pour assister aux Jeux Olympiques.
Mais vous serez, non, mais je veux dire, vous continuerez à travailler au mois d'août?
Eh ben évidemment.
Vous êtes prêt à marcher beaucoup?
Quand je serai pas dans les tribunes, je serai au boulot comme tous les jours.
Bon. Et
6 jours sur 7.
Et s'il faut marcher, vous marcherez?
Bah évidemment, on fait du sport, c'est bien.
Vous faire du vélo aussi.
Aussi le vélo, mais c'est plus dangereux la dernière fois.
Dans Paris, c'est un peu la jungle.
Tous les jours dans Paris, je suis toujours là.
Tatiné, donc.
Oui, marcher Antoine.
Ouais, bon, vaut mieux marcher Antoine.
Surtout à mon âge, oui, c'est mieux, c'est ce que.
Bon, j'imagine.
Du tout, je me permettrai pas.
Antoine, j'imagine que vous discutez avec des voisins de ce qui va se passer au mois d'août, puisque vous habitez Paris. On vous dit la même chose ou pas?
Oui, je ne discute qu'avec les gens qui sont positifs.
Bah, ça doit faire.
C'est une philosophie.
Connaissant Paris, connaissant Paris, ayant habité pas mal d'années, où il va pas y avoir grand monde alors.
Mais si, il va y avoir des gens. Déjà, il va y avoir tous les touristes, tous les gens qui veulent. Mais c'est tous les 100 ans. On va pas se foutre le martel en tête pour une période de 3 semaines. Ou tous les 100 ans, enfin, c'est d'un ridicule consommé, quoi.
Non, mais c'est parce qu'on a peur que la France se ridiculise aux yeux du monde, en fait, c'est un peu ça. C'est vrai que cette cérémonie, si elle se passe bien, c'est super, mais c'est vrai que ça fait peur de voir 220 000 personnes converger en même temps vers les bords de Seine avec un contexte sécuritaire vraiment pas ouvert, on peut le dire comme ça, avec la DGSI qui demande expressément au ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît, faisons le plan B, allons au Stade de France, on vous le dit, ça peut être compliqué, ça peut péter à tout moment. On peut comprendre que les Français s'inquiètent un peu, en tout cas, surtout sur cette cérémonie, je pense que c'est ça qui inquiète le plus.
En tout cas, Antoine, lui reste positif. Merci, Antoine, d'avoir été avec nous au 32-16. Paul, on vous a posé la question, pour 52% des Français, nous ne sommes pas prêts à accueillir les JO, d'accord, pas d'accord, résultat?
Eh bien, nos auditeurs sont très d'accord avec ça, puisque vous répondez oui pour 83% d'entre vous.
Donc 83%, c'est ça, j'estime qu'on n'est pas prêts.
Oui.
Bon, ça on verra. Là, on est prêts. Soyez prêts.
C'est le moment de vous inscrire pour ouvrir aujourd'hui le coffre RMC. Si vous voulez tenter de gagner 50 000 euros grâce au coffre, c'est le moment de jouer en envoyant tout de suite coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. L'un ou l'une d'entre vous ouvrira peut-être le coffre dans un peu plus d'une heure en direct.
Allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi, comme tous les jours à cette heure-là. Eh bien, ça sera le meilleur du jour sur RMC, notre zapping. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Et tout de suite, c'est le meilleur du jour sur RMC.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et notre zapping, on commence avec Charles Matin. Faut-il interdire définitivement tous les parcs avec animaux? À Antibes, le célèbre zoo marin du Marineland vient de perdre un deuxième orque en 5 mois. Des décès prématurés qui seraient dus à leurs conditions de captivité, d'après Muriel Arnal, elle est la présidente fondatrice de l'association One Voice.
Depuis 2019, nous remettons à la justice et au ministère des rapports sur la santé d'Inouk, qui était extrêmement dégradé. Le stress faisait qu'il rongeait le mur du bassin et il avait les nerfs de chacune de ses dents à vif découverts. Leur faire faire des numéros de sauts sempiternellement les mêmes, c'est très ennuyeux pour elle. Pour obtenir cela, il faut les priver de manger et donc c'est un grand stress.
Alors il y a déjà une loi qui est passée, hein, à partir de 2026, les spectacles avec animaux seront interdits en France. Ça concerne les cirques, les parcs, comme ça, les parcs avec des spectacles d'animaux. En revanche, on élargit la question, est-ce qu'il faudrait interdire tout simplement les parcs avec
les
animaux?
Les parcs animaux, oui, moi je suis complètement d'accord. Les animaux ne sont pas des jouets en fait, c'est pas des objets pour nous divertir. Je comprends l'envie d'aller voir des animaux. Elle est humaine, je la partage, moi aussi j'ai envie de voir à quoi ça ressemble un lion en vrai, à quoi ça ressemble un loup en vrai. Enfin, je comprends, mais c'est là que je pense que collectivement on doit se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour que ces animaux ils soient le mieux possible. Je pense par exemple aux États-Unis où il y a dans des parcs nationaux, je pense à celui de Yellowstone qui est le plus vieux et le plus grand parc, des animaux sauvages en liberté, des ours, des loups, des bisons, etc. La question c'est, et ça je trouve ça intéressant, parce que c'est-à-dire qu'ils vivent leur vie et que les humains peuvent cohabiter avec, passer voir, etc. Mais on ne dérange pas la manière dont eux vivent. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on ne cohabite pas avec des animaux dans un parc animalier. On les utilise pour se faire plaisir. Je pense que ça serait tout à notre honneur d'imaginer d'autres manières de cohabiter avec la faune. Et je crois que, d'ailleurs, ça dit quelque chose de notre civilisation, de notre société, où on pense qu'on est tellement différents de la nature et des animaux que finalement on peut les utiliser un peu comme ça nous arrange pour se faire plaisir. Et je pense que ça dit beaucoup de la manière dont l'humain se voit aussi comme finalement cette espèce de grand Manitou du monde qui peut utiliser selon son bon vouloir la nature, la faune et la flore.
Juliette.
Différentes choses. Alors pour les spectacles animaliers, effectivement, moi je suis entièrement contre, que ce soit cirque, que ce soit parc aquatique, spectacle d'orque, etc. Non, moi je suis totalement opposée à ça. Après aujourd'hui, il y a certains parcs animaliers, donc je pense aux zoos, hein, qu'il faut aussi un énorme travail
de préservation
des espèces. Et quand on veut refuser, parce que c'est ce qu'on fait, hein, on refuse une extinction de certaines races d'animaux, je pense que prenons le panda, c'est celui à qui on pense en premier, on ne peut pas totalement se dire qu'il faut interdire les parcs animaliers qui font un énorme travail en termes de reproduction, de préservation de ces races-là, etc. Pour des animaux qui en plus vivent très bien et ne sont pas malheureux en captivité, puisque aussi il y a les animaux, ils sont pas tous pareils. Il y a des animaux effectivement qui vont être extrêmement malheureux en captivité, qui ont besoin de grands espaces, qui ont besoin de pouvoir courir, de pouvoir. Et il y en a qui peuvent très bien le vivre, voilà. Et tant qu'ils sont pas maltraités, qu'ils sont pas utilisés, ça me dérange moins. C'est vrai qu'un tigre en captivité, j'ai du mal à voir comment le tigre peut être heureux, même si il est né en captivité, même si le personnel du parc fait un travail incroyable, etc. Il y a un côté dérangeant, même si évidemment on est tous contents d'aller voir un tigre de temps en temps, mais je pense que c'est un animal par nature qui ne peut pas être heureux en captivité.
Laurent.
Oui, mais moi j'ai un peu peur quand même qu'à force de vouloir effectivement aller dans ce sens-là, on supprime des pans entiers de la vie qui comportent une part de rêve. Et je suis désolé, mais moi, personnellement, je déteste le cirque, ça m'a toujours déprimé. Ouais. Mais un monde où on ne pourra plus emmener ses enfants dans un cirque voir des éléphants, je suis désolé, ça m'attriste. Alors après, je trouve ça attristant. Après, je pense qu'effectivement, c'est très malheureux ce qui est arrivé à cet orque, mais je pense qu'il y a des tas d'autres parcs dans le monde où les orques ne sont pas déprimés. Et je pense que c'est aussi. C'est comme si on disait j'ai repéré tel propriétaire de chien qui bat son chien, c'est atroce, on va interdire les chiens aux gens d'avoir des chiens domestiques.
Ouais, c'est différent, c'est un spectacle dans le cirque. Moi, tu vois, je vais te donner un exemple.
Moi, je pense que
on en discute. À partir de 2026, ça sera interdit de toute façon. Moi, ça faisait très longtemps que j'étais pas allé au cirque. J'y suis allé cet hiver avec les enfants.
Un cirque avec des animaux.
Non, alors justement. il n'y a plus d'animaux.
Voilà.
Enfin, si, je vais t'expliquer, il n'y a plus d'animaux sauvages.
Oui.
Mais ils ont encore le droit d'utiliser
certains.
Il y avait un numéro avec des chiens, oui. Un numéro avec des chevaux. Et je t'avoue que moi, je suis de la génération des années 70-80. Donc, je suis allé au cirque voir des lions, des éléphants et tout. Aujourd'hui, je ne sais pas, ma vision a changé. J'ai vu ce numéro avec des chiens et même le numéro avec les chevaux. Ben, je me suis senti gêné, quoi. Enfin, je sais pas, je me suis dit, quelle utilité? Quelle utilité?
Les chevaux, quand ils sont apprivoisés.
Quelle utilité?
L'utilité, c'est qu'effectivement, il y a une part de rêve dans tout ça. Et que tu je suis désolé, mais je pense que tu as oublié le gamin que tu étais, qui voyait ça avec des étoiles dans les yeux. Et voilà. Et je pense qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas non plus.
Mais après,
on peut encadrer les choses pour que, effectivement, les animaux soient bien traités. Et voilà.
Mais... moi, ce qui m'interroge vraiment, parce que j'entends ce que tu dis sur la préservation des espèces, etc., mais c'est qu'en fait, on a tellement détruit les habitats naturels qu'aujourd'hui, on est obligé de recréer des conditions artificielles pour garder. Les espèces qui sinon disparaîtraient parce qu'on a détruit leur habitat naturel. Je pense que ça doit nous remettre en question.
Charles Matin, le hard discount a-t-il conquis le cœur des Français? L'enquête sur les enseignes préférées des Français vient de sortir pour l'année 2024 et pour la seconde année consécutive, c'est la marque hard discount Action qui a été élue numéro 1. Un succès rapide, fulgurant que nous décryptait ce matin Emmanuel Le Chypre.
Et ce sont effectivement les magasins Action qui arrivent en tête du classement général devant des marques bien plus connues parce que bien plus anciennes dans le paysage commercial français, à savoir Decathlon qui arrive deuxième, Leroy Merlin troisième, Picard quatrième. C'est une performance quand même assez exceptionnelle de la part d'Action.
Comment ça s'explique?
Alors ce qui séduit les Français, c'est une offre positionnée sur des prix très bas, une expérience d'achat jugée parmi les plus efficaces et agréables, 6000 références au total, dont 1500 proposées à moins de 1 euro, ce qui permet de faire son plein de petits plaisirs sans trop entamer son pouvoir d'achat.
C'est peut-être une vue de l'esprit, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a encore quelques années, aller chez Action, bon, ça n'existait pas, mais de ce type de magasin, aller chez Lidl, c'était un peu, on était un peu gêné. Aujourd'hui, très clairement, le consommateur français dit moi, c'est le hard discount, c'est tel magasin, et il revendique.
Je pense que pour moi, on est à une conjonction de deux phénomènes. Un, la paupérisation des Français, parce que quand tu as plein d'argent, a priori, tu te tournes pas. Finis. Donc je pense qu'il y a quand même un vrai sujet de perte de pouvoir d'achat qui fait que les gens ont moins d'argent, donc ils vont dans du discount, qui s'imbrique avec une vraie attaque des réseaux sociaux, notamment du hard discount. Enfin, quand on voit les plus grands influenceurs, enfin de Lidl, c'est des influenceurs qui disent j'ai trouvé ça, c'est trop bien, etc. Et je crois toujours cette tendance à la surconsommation. Des gens qui veulent et moi ça m'arrive aussi, je dis pas, quand je vais chez Action t'as envie de tout acheter et puis en fait t'achètes tous ces trucs puis tu rentres chez toi, tu te sens pas plus heureux, ça encombre et en fait souvent c'est quand même des trucs faits en Chine par des enfants ou des gens qui sont dans des camps forcés. Donc je pense que ces trois phénomènes forcément favorisent l'expansion de ce genre de hard discount, mais qu'il faut faire attention parce que tout ça c'est un peu trop beau pour être vrai, parce que quand t'achètes un truc à 1 euro, il y a un problème quelque part.
Juliette,
je suis d'accord avec absolument tout ce qui a été dit.
Voilà. Comme quoi.
Je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter, parce que je pense que vous avez raison de dire qu'effectivement, il y a une sorte de...
Décomplexion.
Ah, mais totale, décomplexion. Ouais. Et je pense que ça, c'est dû à la paupérisation des classes moyennes. Parce qu'en fait, les pauvres, ils ont toujours été cherchés dans le discount. Ouais. Mais comme la classe moyenne, évidemment, perd en pouvoir d'achat, et elle a bien dû s'y mettre. Et ça a effectivement créé cette décomplexion totale du discount. Les marques ont compris qu'en fait qu'elle pouvait être cool en faisant du discount et leur marketing a changé. La surconsommation qui est malheureusement le monde dans lequel on vit, le fait qu'il y a un problème quelque part quand on achète quelque chose à 1 euro, effectivement ça c'est la base. Donc je ne sais pas quoi rajouter.
Laurent,
j'espère que Laurent a quelque chose à redire.
Non, j'ai quelque chose à redire si ce n'est qu'effectivement mais c'est facile à dire quand on a les moyens de le dire, c'est que je trouve paradoxal que quand les gens n'ont pas d'argent, ils ne soient pas attentifs au fait de dépenser mieux. C'est-à-dire que on sait très bien qu'effectivement quand vous achetez des trucs à des prix cassés, c'est la camelote qui va vous durer 2 jours et que donc finalement, à la fin des fins, c'est souvent un mauvais calcul. Voilà.
Mais il y a la satisfaction, comme le disait Lumière, de consommer.
Oui, mais ça, c'est de la boulimie.
Et ma grand-mère disait, dit toujours d'ailleurs, le bon marché coûte toujours trop cher. Donc quand t'achètes un truc pas cher, t'es sûr c'est que ça va péter dans pas trop longtemps.
Et comme beaucoup de grand-mères, elle était de bon sens, ta grand-mère. Allez, les GG, la France christianise-t-elle à nouveau En ce vendredi saint, bah oui, c'est vendredi saint, nous apprenons que les baptêmes catholiques sont en forte hausse, et notamment chez les adolescents et les adultes, ce qui ne surprend pas la coach de vie, Joëlle Dagosséaï.
Moi, je m'en réjouis. Je trouve que pendant des années, on nous a vendu les valeurs de la République comme étant une nouvelle religion. Ça ne l'est pas. Ça nourrit pas l'âme, ni le sens qu'on veut donner à sa vie. Bien sûr, on les respecte, mais ça n'est absolument pas une religion. Et on a voulu remplacer un peu la religion par ça. Donc moi, je suis plutôt contente. Et je l'observe parce que ma fille est rentrée de l'école et elle m'a dit « Maman, est-ce qu'on fait le carême ?» Je lui dis « Mais pourquoi tu me demandes ça ?» Elle me dit « Non, on en a parlé avec les copains. » Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais vu, enfin même de mon temps.
Ils parlent de ça dans les cours de
Exactement. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, parce que les jeunes cherchent à combler ce vide. Moi, je pense qu'il y avait un vide dans la société qui ne peut pas se remplacer ni par des valeurs de la République, ni par la consommation. Et les jeunes se réapproprient ce à quoi ils peuvent se raccrocher.
Laurent Dandrieux, croyant, pratiquant, est-ce que ça te réjouit?
Oui, bien sûr, ça me réjouit. Je trouve que c'est un signe d'espérance. C'est une tendance qui est déjà un peu ancienne. Hein. Le nombre de baptêmes augmentait tous les ans, mais là, ça s'accélère depuis un an, deux ans.
C'est pas non plus une avalanche.
Non,
il y a
un effet mécanique. C'est-à-dire que moins les gens sont baptisés quand ils sont enfants, plus forcément il y en a qui vont se tourner vers l'Église plus tard. Mais là, il y a une accélération depuis deux ans. Et ce qui est très étonnant, c'est que normalement, ce genre de conversion de jeunes, normalement, ça touche les grandes villes, ça touche les paroisses, les diocèses où il y a des patronages, où il y a une action menée auprès des jeunes assez forte. Et là, aujourd'hui, ça touche des diocèses complètement sinistrés, où il n'y a aucune mission.
Et comment tu l'expliques ?
Je l'explique parce que, justement, c'est une tendance de fond. Alors, il n'est pas totalement exclu que l'Esprit-Saint joue son rôle là-dedans, mais plus fond. Fondamentalement, enfin plus logiquement en tout cas, on sait tous qu'on vit dans une société de plus en plus angoissante parce que de plus en plus déstructurée, où il n'y a pas de repères, on ne sait pas très bien pourquoi on est là, on ne sait pas à quoi se raccrocher, les familles sont éclatées de plus en plus, la société devient de plus en plus anxiogène, et par réaction, il y a de plus en plus de gens, et notamment de jeunes, qui sont en quête d'un idéal, ils vont chercher un idéal qui a fait ses preuves depuis 2000 ans, qui est assez solide, qui n'a pas bougé pendant tout ce temps, et qui effectivement a le mérite non seulement de vous donner un sens à cette vie, mais en plus de vous dire que cette vie ne s'arrête pas après la mort et que vous vous en prenez pour l'éternité, ce qui est quand même une assez bonne nouvelle.
Loumire Lapré, militante écologiste, oserais-je dire, de tendance de gauche.
Ah tu peux le dire, gauchias.
Loumire, toi, ça te parle aussi
Oui, tout à fait.
Ce qui se passe en ce moment dans l'Église.
Tout à fait, moi je me suis convertie il y a quelques mois, années.
Alors, et c'est plus convertie parce qu'auparavant
Moi j'ai une famille athée, anti-religieuse, très fortement, de fonctionnaires hussards de la République, pour qui la République est... guide l'action au quotidien.
Donc, tu t'es converti, on en a parlé, t'avais 12 ans, c'est ça ?
Je vais pas mentir, c'est parce que moi je viens d'un milieu très populaire où autour de moi il y a que des immigrés portugais, polonais et italiens et que tout le monde allait au caté et que moi j'étais vraiment toute seule. Donc je ne suis pas sûre que c'est vraiment le moment fondateur de mon chemin spirituel. Ce qui m'a beaucoup interrogée, c'est que j'ai fait du militantisme aux États-Unis, là où quand on travaille un peu sur les droits civiques et Martin Luther King, qui est la personne qui m'inspire le plus au quotidien, la totalité de son action, à lui, est inspirée par le christianisme. Donc ça m'a un peu interrogée. Je me suis dit, moi j'ai grandi avec cette idée que la religion, c'était pour les gens qui avaient peur de la mort et qui étaient un peu débiles, quoi. C'est un peu ça avec lequel j'ai grandi. Et je me suis dit, je vais me renseigner. Ce serait un peu dommage de pas se faire sa propre idée. J'ai rencontré énormément de chrétiens de gauche aux US et en France, qui basent leur action politique, notamment dans le christianisme social. Et on connaît des grandes figures, Gaël Giraud, Cécile Duflot.
Et cette tendance actuelle de plus en plus d'adolescents, on le dit, d'adultes qui se baptisent, est-ce que ça te surprend ?
Ça me surprend pas, parce que je crois vraiment qu'on est en train de toucher les limites de cette société capitaliste, violente, dans laquelle on est. Et qui est orienté sur la consommation, on en parlait juste avant. Et je pense que il y a vraiment une prise de conscience collective de on est toutes et tous dans le même bateau, notamment face à la crise climatique. Et mine de rien, c'est aussi ça que la religion nous dit. On est tous liés par une même communauté de destin. Et je pense que moi, je ne le vois pas comme quelque chose ni de positif ni de négatif. Je pense que c'est une réaction cohérente, logique à l'ordre du monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est franchement un peu flippant, moi je trouve quand même.
Allez, on termine avec ça, Pauline Matin. Êtes-vous, c'était une question grave. Plutôt chocolat noir ou chocolat au lait? À 3 jours de la chasse aux œufs et poule en chocolat, les amateurs ont forcément leur préférence. Mais sachez que l'un des deux, blanc ou au lait ou noir, est bien meilleur pour la santé que l'autre.
Noir. Et
Charles Magnin nous l'explique. Oui.
Le chocolat noir arrive en tête pour les Français, mais d'une courte tête, 55%. Alors évidemment, il ne faut pas en abuser, mais surtout en ce qui concerne le chocolat industriel, beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. Mais si vous optez pour du bon chocolat noir, vous pouvez y aller. La science regorge d'études sur les bienfaits du cacao, plus précisément des flavanols, les substances contenues dans le cacao. Elles réduisent le risque de démence, elles améliorent les fonctions mentales, elles font baisser le risque de maladies cardiovasculaires, elles augmenteraient la densité de la peau ainsi que son hydratation. En fait, le chocolat rendrait beau et même intelligent.
Chacun son choix, effectivement, comme disait Paul juste à l'instant, et sans justification. Lait ou noir?
Noir.
Paul?
Noir.
Lumière? Noir.
Juliette?
Lait.
Je refuse de répondre à cette question. Le vendredi saint, jour où nous autres catholiques, nous sommes censés jeûner.
Bon, alors, j'accepte. Allez, dans l'instant, la suite, d'Estelle Midi. RMC s'engage avec vous, tiens. On va s'engager avec Sarah. Sarah qui a bien du mal à toucher la prime du gouvernement pour rénover sa maison, la prime rénov. C'est dans un instant, dans Estelle Midi, sur RMC et RMC Story. On n'est pas sûr.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, et Guillemette Franquet nous a rejoint.
Estelle Midi,
RMC s'engage avec vous.
Salut Guillemette.
Salut Rémi.
Et aujourd'hui, on revient sur ma prime Rénov, un dossier que tu suis depuis maintenant, enfin, qu'on suit depuis plusieurs années.
Hein. Absolument. Alors bon, un petit rappel pour commencer, ma prime Rénov, c'est une aide financière public versé sous condition lorsque vous faites des travaux de rénovation énergétique chez vous. Cette aide, elle existe depuis 2020 et dès l'année suivante, des auditeurs nous ont alertés sur des failles dans le système. C'est le cas notamment de Sarah, cette maman du Tarn. Elle a fait deux salves de travaux dans sa belle maison ancienne. D'abord, elle a remplacé sa chaudière au fioul et ensuite, elle a changé ses fenêtres. Son dossier était en fait bloqué sans raison, voilà, incompréhensible. Mais grâce à notre intervention, Sarah a pu toucher 1 500 euros pour ses fenêtres. Mais voilà, l'enveloppe pour sa pompe à chaleur, elle, n'est toujours pas arrivée.
Je leur ai envoyé les devis, la facture, les avis d'imposition de 2020, de cette année. Mais les travaux ont quand même été faits en mars 2020. Donc le 16 mars 2024, ça a fait 4 ans.
Ouais, ça fait beaucoup quand même, 4 ans.
Ça fait beaucoup 4 ans, voilà.
4 ans de retard.
4 ans de retard, attendez, c'est pas fini. Il y a quelques jours, Sarah a eu une nouvelle frayeur. Elle a reçu un mail qui lui informait que son dossier allait être annulé si elle ne finalisait pas sa demande en ligne avant le 1er avril, soit lundi prochain.
On ne sait même plus quoi penser. Après, on n'a pas envie de lâcher. Mais 4 ans, ça commence à être long. J'ai eu toutes les phases, la phase énervée, déçue, compagnie. Mais là, j'ai juste pas envie de lâcher. Et je ne la lâcherai pas, hein.
Bon voilà, le problème vous voyez venir, Rémi, Sarah n'arrive.
Si un jour on pouvait avoir, je sais pas, un responsable politique, un chef de l'État, tiens, rêvons qu'ils nous disent, allez, on va tout simplifier. Simplification administrative, ça serait tellement bien.
Écoutez, on va en parler un peu après de simplification. Mais là, on va rester d'abord sur Sarah. Sarah, en fait, elle n'arrivait pas à faire cette démarche en ligne parce que parfois il y a des bugs sur le site. Et également, ça c'est ce qu'elle nous a dit, parce qu'on lui réclamait sans cesse des nouveaux documents. Voilà, donc ma prime Rénov est gérée par l'Agence Nationale de l'Habitat, l'ANA. On les a évidemment contactés. En plus, ils commencent à bien connaître le dossier, l'ANA, puisqu'on lui a soumis dès cet hiver le dossier de Sarah. L'agence s'est montrée rassurante auprès de nous. En fait, le cas de particulier de Sarah est très bien suivi, nous dit-on. Elle ne doit pas tenir compte de la nouvelle deadline du 1er avril. Ouais, voilà, Sarah, compliqué. Dans la foulée, elle a été contactée. Bingo, son dossier est enfin finalisé depuis hier pour une aide de 4 000 euros. C'est moitié moins que ce qu'elle imaginait, mais nous, on va continuer à suivre ce dossier. Et puis, ça reste quand même, Rémi, un énorme soulagement.
Et puis, Guillemette, tu nous as parlé de cette date limite, ce lundi 1er avril. Pourquoi le 1er avril?
Parce qu'à partir du 1er avril, le montant de certaines aides va diminuer. Ouais. Poêle à bûche, poêle à granulés, chaudière à bois, notamment. Et ça va aller jusqu'à moins 30%, par exemple, de 10 000 à 7 000 euros pour les foyers aux revenus très modestes qui font installer une chaudière à bois. Donc, si vous avez ouvert un dossier sur le site en ligne et que vous ne l'avez pas encore finalisé, vous devez impérativement le boucler ce week-end. Sinon, il sera annulé. Et en cas de nouvelle demande, eh bien, vous risquez d'avoir des aides amputées.
Un dernier mot très rapide. L'Agence nationale de l'habitat nous a demandé, en tout cas, AMC s'engage avec vous, de passer quand même un petit message.
Oui, gare aux fraudes qui se multiplient. Petit rappel, si vous voulez toucher des primes MaPrimeRénov', il faut passer soit par le site web de France Rénov', soit en se rendant dans un espace conseil physique. Il y en a 570 en France.
Merci beaucoup Guillemette. Tiens Guillemette, est-ce que tu t'intéresses, tu es journaliste, donc oui, tu t'intéresses à tout.
À tout.
Mais quand tu ne travailles pas, est-ce que tu t'intéresses aux faits divers?
Écoutez, ça m'arrive quand j'ai des push, comme on dit sur notre téléphone portable.
Est-ce que tu connais Dominique Rizet?
Non.
Tu connais pas Dominique Rizet?
Non, mais criez pas. Non, je ne sais pas.
Non, mais est-ce que tu connais Faites Entrer l'Accusé?
Alors, j'ai pas 15 ans, j'ai près de 30 ans.
Bon, Dominique,
est-ce que tu connais Faites Entrer l'Accusé?
Oui, bien sûr.
Et bien, Dominique Rizet.
Ce bon vieux Dominique. Je connais son visage.
Ce grand Dominique Rizet. Et bien, Dominique Rizet.
Et sa voix.
Figure-toi, dans un instant, il sera là, à ta place, à côté de moi. Je suis extrêmement fier parce qu'on l'adore, Dominique Rizet. Pourquoi Dominique sera avec nous dans un instant? Parce que l'affaire Émile, l'affaire Lina, l'affaire Grégory, l'affaire Outreau, toutes les autres. Notre fascination pour les faits divers, est-ce qu'elle est malsaine, quelque part? On vous pose la question. Vous nous appelez au 32-16. Et si vous voulez parler avec Dominique Rizet, ça sera dans un instant. Vous pourrez parler avec lui au 32-16. C'est dans un instant, dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.